De la paix. Il est 7 heures. Du 7h, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, à la une de ce journal. Élection locale partielle du 2 décembre dernier. Le politologue Geoffroy Julien Kouao souligne la bonne performance des candidats indépendants. Toutefois, il pense qu'il faut tirer des leçons des incidents à Ferke pour les prochains scrutins. Lutte contre le cancer de la prostate, aucun traitement n'est retardé dans la prise en charge faute de moyens financiers au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Alassane Ouattara. Affirmation du docteur Traoré Kadi, cancérologue au sein de la dite structure. Présidentielle au Sénégal, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko devant un tribunal le 12 décembre prochain. En Côte d'Ivoire, nous reviendrons pour la revue des titres de la presse avec Jean-Claude Comet. Jean-Claude Comet qui justement recevra en fin d'édition comme invité de la rédaction, Dr Germain Cramaux, l'enseignant en économie en dira plus sur la fin en 2024 des tarifs douaniers entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et les implications de cette décision pour l'économie ivoirienne. Élection locale partielle du 2 décembre dernier, au vu des résultats, Geoffroy Julien Kouao relève entre autres la bonne performance des candidats indépendants. Par ailleurs, concernant les incidents liés au vote, le juriste et politologue estime qu'il faut en tirer des leçons pour les prochains scrutins.
Les résultats des élections du 2 décembre 2023 confirment ceux proclamés le 2 septembre dernier, à l'exception de la circonscription de Koumbala. Ça veut dire que les populations sont restées dans la même dynamique électorale et ça veut aussi dire que il faudrait désormais regarder du côté de la CEI parce que les raisons qui ont justifié la plupart des rejets des résultats par le Conseil d'État procèdent du dysfonctionnement de l'administration électorale et non du scrutin lui-même. Autre remarque, c'est toujours la dynamique victorieuse du RHDP qui vient de remporter deux communes importantes et une région. On a vu le PDCI avec une commune, le PPACI totalement absent et on a vu la bonne performance aussi des indépendants. Dernière remarque, ce sont les incidents malheureux à Ferke-Sédougou. Il faut donc prendre en compte cet incident pour anticiper sur les scrutins futurs.
Effectivement, on a senti quand même dans certaines localités comme Thiès-Salé et Ferke, la tension montait. Vous allez dire que c'est normal pour toute élection?
Oui, évidemment. Une élection est avant tout une compétition concurrentielle. Et donc, c'est normal qu'il y ait la montée des tensions. Mais il faut contenir tout cela dans le cadre démocratique.
Geoffroy Julien Kouao, juriste et politologue joint par Junior Cardin. Pendant ce temps, la présidente du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, a présenté au sénateur ivoirien le lundi 4 décembre à Yamoussoukro le rapport annuel 2022 de son institution sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Dans cette présentation, Namizata Sangaré a entre autres livré le résultat d'une étude réalisée sur l'impact de la corruption dans le système de santé et sur l'environnement global des structures privées de santé en Côte d'Ivoire. Là-dessus, un extrait de son intervention.
Le CNDH a réalisé une étude sur l'impact de la corruption dans le système de santé à Abidjan, Bouaké et Korogo. Cette étude a révélé que la forme de corruption la plus fréquente est le trafic d'influence, ensuite le détournement et la soustraction des deniers publics et enfin l'abus de fonction. Le rapport analyse que l'impact de la corruption dans le système de santé compromet l'exercice du droit à la santé, notamment l'acceptabilité et la qualité des soins. Le CNDH a initié une enquête en vue de porter un regard critique sur l'environnement global des structures privées de santé et établir leur cartographie. Les résultats de cette enquête indiquent que les cliniques privées n'ont toutes pas les autorisations nécessaires. Sur un total de 1460 structures sanitaires privées à l'intérieur du pays, seules 343 ont une existence légale, 99 exercent avec un agrément provisoire et 1022 ne disposent d'aucun document administratif et exercent dans l'illégalité. L'enquête a relevé des cas d'atteinte aux droits de l'homme, notamment des atteintes à la vie, le refus d'admission des soins en cas de non-paiement de frais, le non-respect de la législation en vigueur relative à la création et au fonctionnement des établissements sanitaires privés.
Namizata Sangaré, la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, dans des propos recueillis par Émilie Yao. Du côté de Danané, population et autorités locales ont récemment échangé autour du thème « Les élus face au peuple », une initiative du RAIDH, regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, pour renforcer les capacités sur le fonctionnement des institutions et sur les valeurs citoyennes de la République. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tonkpi.
Le représentant du préfet de Danané, Béné Jean-Louis, à l'ouverture des travaux.
Ici à Danané, nous avons des députés, des sénateurs, le président du conseil régional, nous avons le maire de la commune. Qui fait quoi exactement? Qu'est-ce que la population doit attendre de chacune d'elle?
Dans son exposé aux participants, le représentant de la directrice de Konrad Adenauer, Steve Tung, Goli Théodore, précise.
L'objectif de cette activité, c'est de permettre aux élus, dans un langage simple et clair, d'expliquer eux-mêmes aux populations le contenu de leur mandat. En d'autres termes, je vote le maire, je vote le député, c'est pourquoi. Quel pouvoir je lui donne pour agir à mon nom? Il doit me représenter en faisant quoi? Comment est-ce qu'on peut leur demander des comptes? Comment on peut juger de leur efficacité et contrôler les actions? C'est tout le sens de cette activité.
Le vice-coordonnateur du RAIDH, Bakayoko Falikou, en fin de rencontre.
Les populations de Danané sont informées désormais du rôle et attribution du député et du maire. Au regard de ces résultats obtenus, nous souhaitons que les participants pérennisent les acquis de cette action civique à travers des rencontres et des forums de discussion.
Sentiment d'une participante.
Je suis très contente parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, que je viens de découvrir aujourd'hui. Le député, par exemple, ne reçoit pas de fonds de roulement pour pouvoir soutenir la population et que c'est la mairie qui reçoit les fonds pour améliorer les conditions de vie des populations pour pouvoir avancer le développement.
Le RAIDH entend faire bénéficier d'autres localités de cette activité à travers le pays. Stéphane Adam, Danané, Radio de la Paix.
Conférence grand public sur le cancer de la prostate au CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara, le vendredi 1er décembre à Abidjan-Cocody. Cette rencontre, initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est brodée autour du thème « L'évolution et les innovations sur le traitement du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire ». Sur le dépistage et la prise en charge de la maladie, retrouvons Docteur Traoré Kadi, elle est cancérologue au CNRAO.
Au Centre national d'oncologie médicale, il y a déjà un volet social qui est fait pour tous les patients, même pour ceux qui ont des difficultés financières. Aucun traitement n'est retardé. Tous les traitements se font. On voit avec les patients quelle est la façon dont ils vont pouvoir honorer leurs honoraires. On a même fait récemment une étude qui a vu que toutes les couches socio-économiques avaient pu recevoir tous les traitements. Il n'y avait pas de différence entre quelqu'un qui était aisé par rapport à l'autre. En fonction du stade de la maladie, quand quelqu'un est en traitement, on suivait l'efficacité du traitement. Et le plus souvent, c'est l'antigène PSA qu'on demande pouvoir surveiller. Nous sommes des cancérologues et le centre traite que les patients qui sont atteints de cancer. Les trois maladies principales qui touchent la glande prostatique, la prostate, on a l'adénome, c'est l'équivalent du fibrome chez la femme. Il n'y a pas de cancer, mais la prostate grossit. On a également la prostatite, qui peut être inflammatoire ou bien une infection. La troisième maladie, c'est le cancer de la prostate. Quand quelqu'un vient pour un dépistage, si c'est diagnostiqué précocement, les possibilités de guérison sont très élevées. Quand c'est des stades très précoces, on peut avoir recours à la chirurgie ou à la radiothérapie. Quand c'est des stades qui sont un peu évolués mais qui ne sont pas métastatiques, on peut faire la radiothérapie associée à une hormonothérapie. Et quand les stades qui sont métastatiques, c'est-à-dire qu'ils ont la maladie qui a quitté la prostate et s'est propagée un peu dans l'organisme, c'est les traitements systémiques, l'hormonothérapie simple ou bien la chimiothérapie. Et il y a d'autres types de traitements également qui existent.
Docteur Traoré Kadi, cancérologue au CNRAO, Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie à la Alassane Ouattara d'Abidjan-Cocody. Réduction de la violence en milieu scolaire, le Razalao CI, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, organise demain 7 décembre la deuxième édition de la Marche Blanche contre les violences en milieu scolaire. Pour cette année, la ville de Boaké accueille l'événement dont nous parle ici Ntaye Aka Victorien, le président du Razalao.
Une marche blanche parce que ces trois dernières années, nous avons constaté que en milieu scolaire, il y a l'expansion des bagarres rangées entre élèves, bagarres rangées entre écoles, bagarres rangées entre élèves et des individus non identifiés. Mais à côté de cela, il faut ajouter les manifestations au congé anticipé que les élèves s'entendent ces dernières années. Et c'est récurrent, en dehors de l'année dernière où ça a été moindre. Mais également, il faut noter que dans ces différents actes que je viens de citer, il y a toujours mort d'homme. On enregistre toujours la perte en vie humaine d'un élève. On a vu le 3 décembre 2021 à Issia, lors de manifestations liées au congé anticipé, un élève a perdu la vie, poignardé par ses camarades. Le 22 novembre 2022, à Boaké, deux écoles se sont affrontées. Un élève également en a perdu la vie. Vous voyez, ça fait de trop. Sans toutefois oublier les actions, les agressions que les élèves subissent de la part de leurs amis élèves, mais également les menaces conférées contre leurs encadrés. Leurs encadrés qui sont les éducateurs, les professeurs, le corps enseignant. Et cela, il y a plusieurs exemples que nous avons et ça nous interpelle.
Ntaye Aka Victorien, le président du Razalao CI, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Sur le continent au Sénégal, un tribunal de Dakar examinera le 12 décembre prochain la réintégration ou non de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales, a appris l'AFP mardi de sources judiciaires. La Cour suprême a cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre dernier qui avait remis Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle et ce, en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d'une condamnation dans une affaire de mœurs. Quittons le pays de la Teranga pour la Côte d'Ivoire où nous attend Jean-Claude Comé pour la revue des titres de la presse. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Sonia. Bonjour à tous. L'actualité politique avec ce qui se passe au PDC-RDA mais aussi au RHDP et les actions pour la préservation de l'environnement avec un zoom sur ce qui se passe à Dubaï. Dans le cadre de la COP28, ce sont là les principaux centres d'intérêt de la presse parus ce mercredi. À propos notamment de la candidature à la présidence du PDC-RDA, un autre des 5 candidats annonce donc son retrait de la course à la succession de Henri Conan Bédier, le président de fin de ce parti. L'Inter Histoire Info rapporte que c'est Moïse Koumoué Kofi qui a décidé de se retirer. Le Nouveau Réveil fait noter que de 5 candidats déclarés, on est actuellement à 2 en lice. Le journal relaie donc les explications fournies par le concerné sur les vraies raisons de son retrait. Un retrait qui vient s'ajouter à celui d'Akossi Bengio, qui soutient désormais le candidat Tia, mais aussi à la candidature invalidée de Maurice Kakou Gikawe. Tout ceci fait écrit à Fraternité Matin ce titre, Tia marche vers la présidence du PDC-RDA. Ce qui fait réagir le matin, qui s'interroge sur la procédure d'accession du concerné à la présidence du PDCI. Le confrère qui parle de forfaiture se demande si le PDC mérite encore son nom de parti démocratique. Le Rassemblement abonde dans ce sens en écrivant que la démocratie est piétinée. L'Avenir ne dit pas le contraire à sa une quand il estime que le PDCI piétine ses textes pour introniser, ce sont ses mots, Thiam. Mais rappelle le Nouveau Réveil, il ne reste pas encore le seul candidat puisque Jean-Marc Yassé est toujours dans la course et justement le candidat à la présidence du PDCI dévoile ses 9 motivations et engagements. C'est ce que rapporte le journal qui salue au passage la décision du professeur Gikawe qui, pour le journal, se sacrifie encore une fois de plus pour son parti, le PDC-RDA. Autre parti, il s'agit aussi d'élections et c'est le patriote qui en parle. On peut indiquer que les 27 candidats sont à l'assaut des électeurs pour la présidence de l'UJRHDP, l'Union des jeunes du RHDP, AGE, donc Assemblée générale élective de l'UJRHDP, la jeunesse oufouettiste à l'épreuve de la démocratie déclare donc le mandat qui fait comme donc pour parler d'une autre actualité, un zoom sur la COP28 annonçant que pour le financement de l'éducation environnementale, Jacques Assaoré, le ministre ivoirien de l'Environnement, signe une déclaration présent donc à cette COP28 à Dubaï. La CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, promet le soutien du secteur privé à Assaoré Jacques, rapporte Soir Info. Le Matin informe aussi que le ministre Jacques Assaoré capte des financements pour le programme ivoirien. Ce journal, tout comme l'Intelligence d'Abidjan, rapporte également que la ministre de l'Économie et du Plan et du Développement, Kabani Allé, hier donc au Conseil économique, social, environnemental et culturel, a expliqué la stratégie de la Côte d'Ivoire sur l'économie verte. Merci Sonia.
Merci Jean-Claude. On vous retrouve dans l'édition de 8h toujours pour la revue des titres de la presse, mais vous ne partez pas. On reste encore en votre compagnie puisque vous recevez comme invité de la rédaction Dr Germain Cramaux. Ce matin, l'enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody éclaire notre lanterne sur l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. En principe, en 2024, selon l'une des décisions de cet accord, il n'existera plus de droits de douane entre le pays et ceux de la zone européenne. Sur les implications pour les entreprises ivoiriennes et l'économie de la Côte d'Ivoire, retrouvons donc Dr Germain Cramaux en votre compagnie, Jean-Claude Comé.
Dr Germain Cramaux, bonjour.
Et bonjour Monsieur Comé.
Il est question de la fin des tarifs douaniers dans les transactions entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Cela est prévu début 2024. D'abord, pour commencer, les tarifs douaniers, c'est quoi?
Effectivement, les pays échangent entre eux et durant ces échanges, il y a des tarifs qui sont appliqués pour plus ou moins protéger les pays et permettre aux pays aussi d'avoir des recettes douanières. Donc, ce sont des tarifs qui sont appliqués sur les différents biens qui sont importés des pays partenaires.
Et quelles sont les conditions, justement, qui peuvent amener deux pays ou deux zones économiques à éliminer ces tarifs douaniers-là?
Ok, dans le cadre de la coopération, certains pays peuvent décider de mettre fin à ces tarifs pour faciliter l'accès des différents biens sur les différents marchés. Et dans le cadre des accords régionaux, comme c'est le cas des pays de l'UE, de la CEDEAO, les pays décident d'éliminer entre eux les différents tarifs, donc bien plus ou moins un accès libre à ces pays-là.
Alors concernant donc l'Union européenne avec les pays africains, on parle d'accords de partenariat économique, les APE. Justement, quelles pourraient être les conséquences de cette élimination pour l'économie ivoirienne?
Pour un bref rappel, il faut savoir qu'avant les APE, l'Union européenne et les pays d'Afrique et du Caraïbe et du Pacifique ont fait des accords qui facilitaient l'entrée des produits de ces pays-là sur le marché européen, sans droit de douane. Et il s'avérait que ces accords n'étaient pas compatibles avec les règles de l'OMC. Parce que l'OMC demande à ce que si vous accordez des avantages à un pays, il est aussi évident que ces mêmes avantages soient accordés aux autres membres de l'OMC. Alors que entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, du Caraïbe, du Pacifique n'étaient pas compatibles avec les règles de l'OMC. Donc, c'était comme si on était un peu dans l'illégalité selon les règles de l'OMC. Donc, pour corriger cela, on a décidé de mettre en place des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains, puisque l'OMC autorise que des pays qui sont dans des groupes régionaux puissent accorder des avantages. Donc, c'est dans ce sens que ces APE ont eu lieu. Et il s'avère que les avantages dont nous bénéficions avant les APE doivent disparaître pour que nous puissions avoir de nouveaux accords de telle sorte que nos biens puissent entrer sur le marché européen librement et que les produits européens aussi puissent avoir accès à nos marchés de façon libre.
Nous pourrons exporter donc sur l'espace européen sans droit de douane, vice-versa. Hein. Donc les produits européens aussi se retrouveront sur le territoire ivoirien sans droit de douane, c'est cela?
Effectivement.
Alors, quelles sont les conséquences pour d'abord l'économie ivoirienne et partant pour la zone européenne?
Oui, vu que du point de vue de la compétitivité, nos produits sont moins compétitifs vis-à-vis des produits européens. Donc, le danger, c'est que nos entreprises disparaissent. Parce que lorsqu'un bien plus compétitif entrera sur le marché ivoirien, il va s'en dire que nos produits ne pourront pas faire face à la concurrence. Donc, voici un peu le risque. Si nous avons aussi l'accès à ces marchés européens et si nous ne signons pas ces accords, c'est comme si nous nous interdisons l'accès à ces marchés.
Alors, justement, vous notiez donc des opportunités pour certaines entreprises ivoiriennes. Quels pourraient être donc les avantages justement de l'ouverture l'ouverture du marché européen pour les entreprises ivoiriennes?
L'ouverture, déjà, c'est de nous permettre de continuer d'exporter sur ces marchés, parce que si ces accords n'étaient pas signés, nous ne pouvons plus exporter sur ces marchés-là. Donc, avec la mise en œuvre de cet accord, nous pouvons continuer d'exporter sur ces marchés. Et aussi, en échangeant aussi, pouvoir acquérir la technologie de ces pays, pour pouvoir aussi nous améliorer et faire face à la concurrence, parce que ces pays imposent des normes pour accéder à leur marché. Donc, nous serons amenés à améliorer nos processus de production, à obtenir des biens de meilleure qualité, et aussi offrir à nos populations même des produits de qualité et aussi pouvoir exporter sur ces marchés européens.
Alors, vous parlez de normes, est-ce que ce n'est pas aussi une manière détournée pour ces pays de restreindre l'accès à ces marchés? Est-ce que nous parlons donc d'un accès sans problème donc sur un marché? Pourquoi imposer des normes pour avoir accès à ces marchés?
Oui, c'est ce qui est appelé la protection non tarifaire, que les règles de l'OMC nous amènent à supprimer tout ce qui est barrière tarifaire. Ces normes-là empêchent plus ou moins nos biens d'accéder à ce marché. Et comme l'a été dit, d'ici 2024, si notre cacao n'est pas durable, il sera difficile d'exporter sur le marché européen. Donc plus ou moins, bien que ce soit des normes, mais pour certains produits pour lesquels les pays européens ne sont pas des producteurs. Quand nous prenons par exemple le cacao, ils ne sont pas producteurs de cacao, mais en mettant une norme sur le cacao durable, ce n'est pas forcément pour nous empêcher d'accéder à notre marché, mais c'est pour nous amener à avoir des productions de meilleure qualité.
Et il est de plus en plus question, pour parler du cacao et bien d'autres produits agricoles, de vérifier que si ces produits-là ne sont pas facteurs de déforestation. Est-ce que tout cela n'est pas une manière aussi de restreindre ces marchés-là à ces produits africains, notamment ivoiriens?
Ces pays imposent des normes sur ces produits parce que leurs consommateurs sont exigeants. Ils souhaitent avoir une certaine traçabilité. Parce qu'en Europe, il y a certains produits phyto qui sont interdits sur le marché, alors que chez nous, ces produits continuent d'être utilisés. Les associations de consommateurs dans ces pays sont tellement regardants et ont un certain pouvoir qui amènent ces pays à prendre certains normes. Par contre, pour certains produits manufacturiers, qui constituent des concurrents pour les produits produits dans ces pays européens. Effectivement, la mise en place de ces normes contribue à limiter plus ou moins l'accès à ce marché-là.
Docteur Germain Cramaud, je vous remercie.
Merci, monsieur.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Docteur Germain Cramaud, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, était reçu par Jean-Claude Comé. C'est ce qui referme les pages de ce journal, dont voici le rappel des titres. Élection locale partielle du 2 décembre dernier, le politologue Geoffroy Julien Kouao souligne la bonne performance des candidats indépendants. Toutefois, il pense qu'il faut tirer des leçons des incidents à Ferke pour les prochains scrutins. Et puis présidentielle au Sénégal, la candidature de l'opposant Ousmane Sonko devant un tribunal le 12 décembre prochain. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 8h.
Dans le cadre de l'organisation